Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On va parler tout de suite d'entrée de jeu d'un sujet qui nous concerne tous. D'abord, on aime bien vivre, mais ça devrait pas nous empêcher de parler de notre fin de vie et éventuellement de notre mort. Puis je veux pas être downer là ce matin du tout. Vous me permettrez juste de revenir quand même sur ce sondage qui est dans l'actualité ce matin. C'est un sondage léger. On a demandé aux Québécois qu'est-ce qu'ils pensaient, entre autres, de l'aide médicale à mourir, de la notion de demande d'aide médicale à mourir et finalement de directive médicale anticipée. Vous savez que depuis 2015, ce qu'on appelle les DMA, directives médicales anticipées, existent et vous pouvez les signer pour, d'une certaine façon, faire connaître vos intentions par rapport à vos soins de fin de vie. C'est donc quelque chose j'allais dire nouveau, même si ça fait 4 ans, c'est encore relativement peu connu. On l'a abordé la question la semaine dernière très rapidement et on se disait d'ailleurs qu'on allait en reparler. Et là, ce matin, ce sondage de Léger qui vient nous dire que 3 Québécois sur 4 souhaitent vraiment que l'Alzheimer fasse partie de l'aide médicale à mourir. On a posé la question, est-ce que vous seriez d'accord à ce qu'une demande d'aide médicale à mourir soit faite de manière anticipée à l'aide d'un formulaire officiel dès qu'un diagnostic d'Alzheimer est posé, alors que vous êtes encore lucide? Et il y a le 2/3 des gens qui sont d'accord avec ça. Puis je pense que, juste en le disant, il y a comme une espèce de logique là-dedans. Nous allons parler de ça. Il y a évidemment l'Alzheimer, mais il y a le cancer, il y a la maladie cardiaque. Il y a beaucoup de conditions physiologiques qui peuvent... Il y a des maladies dégénératives qui peuvent vous amener à décider que c'est pas comme ça que vous voulez finir votre vie. Puis je trouve que ça devrait être comme dans les droits des humains. Les droits humains, là, devraient inclure ça. C'est-à-dire le respect de mourir dans la dignité, mais pas que mourir. Vivre aussi la fin de sa vie dans la dignité. On va en discuter avec Jean Lambert, qui est notaire, ex-président de la Chambre des notaires. Il est également membre de la Commission sur les soins de vie. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Jean. Oui, je veux vous dire Jean, parce qu'on commence à se connaître pas mal là, quand alors, on se voit au moins une fois par semaine.
Pour Isabelle.
Voilà, exactement. Merci, Jean Lambert, d'être là. Le docteur Georges L'Espérance est avec nous également. Il était là la semaine dernière pour parler justement du droit de mourir dans la dignité à la suite de cette affaire dont on a beaucoup parlé, bien sûr, de Michel Cadotte. Vous êtes neurochirurgien, docteur L'Espérance. Vous êtes président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Merci d'être là, vous aussi, ce matin.
C'est un plaisir, Mme Maréchal. Merci de l'invitation.
En faisant la recherche, je me suis rendu compte, finalement, qu'il y avait plusieurs documents qui créent peut-être un peu de confusion quand il s'agit de parler de soins de fin de vie, de dernière volonté par rapport à sa fin de vie, par rapport à toute la notion de mourir dans la dignité. C'est pas simple. Légalement, on prend pour acquis certaines choses aujourd'hui. Il y en a d'autres qu'on ne sait pas, qu'on ignore complètement. Donc, ce matin, et les gens, vous allez pouvoir poser des questions, vous allez pouvoir nous téléphoner, nous dire un peu si vous êtes passé par là, qu'est-ce que vous avez eu comme écueil, quel genre de problème auquel vous avez dû faire face. Parce que des fois, tu penses que tu as un papier qui est clair, puis c'est pas le cas. 514-790-9850. Sans frais, vous pouvez nous joindre partout ce matin en faisant le 1-866-790-9850. Docteur L'Espérance, on voulait revenir là-dessus la semaine dernière parce que vous êtes rendu compte justement qu'il y avait beaucoup de familles qui étaient dépourvues, qui pensaient être protégées, mais qui ne l'étaient pas.
Oui, en fait, les directives médicales anticipées font partie de la loi 2 au Québec, qui est en vigueur depuis décembre 2015. Et malheureusement, à l'automne, il y avait encore seulement 30 000 Québécois qui avaient complété leur formulaire. On me dit qu'il y en a autour de 60 000 maintenant, ce qui est quand même extrêmement peu. Prenons pour acquis qu'il y a 8 millions de Québécois. Disons qu'en gros, la moitié ont au-dessus de 50 ans, ou 45. Théoriquement, ces gens-là devraient au moins avoir pensé à faire leur directive médicale anticipée de la même façon que les gens font leur testament. Mais le testament, il est ouvert après le décès. Les directives médicales anticipées ont pour but de prévoir les traitements que la personne veut ou ne veut pas avoir lorsqu'elle entrera à l'hôpital ou qu'elle a une problématique où elle devient inapte à accepter ou non les soins. Il faut bien savoir que dans notre système juridique québécois et canadien, la Charte des droits fait que toute personne est tout à fait apte à décider pour les soins qu'elle veut recevoir, même si elle ne veut pas recevoir de soins et même si la mort s'ensuit, c'est la décision de la personne, point final.
Tant qu'elle est consciente.
Tant qu'elle est inconsciente. Alors, on entre dans le champ un peu notarial, ouais. Donc pour les certificats d'inaptitude, par exemple, et tous ces éléments-là qui sont vraiment dans l'aspect légal. Au strict plan médical, il faut que les gens écrivent leur directive médicale anticipée pour que ce soit inscrit au registre des directives médicales médicale anticipée à la RAMQ. Et à ce moment-là, vous, c'est intégré partout dans le réseau. Et lorsque vous arrivez à l'hôpital, que vous êtes inconscient, normalement, votre nom va apparaître à l'écran avec vos directives médicales anticipées. Bon, ce n'est pas tout à fait encore totalement au point.
Parce qu'on sait que le dossier informatisé marche quand tu veux. C'est ça que vous vouliez dire?
Oui, ben c'est aussi que c'est un petit peu complexe pour aller chercher. Mais enfin, c'est le but, c'est l'objectif, c'est ça. Vous arrivez, vous êtes inapte, vous n'avez pas de famille avec vous qui vous accompagne immédiatement, ou encore il y a un peu de chicane de famille. Et donc là, vos directives sont écrites noir sur blanc et selon la loi 2, cela a un effet contraignant sur les soins de santé, sur les médecins.
Mais toujours, la question, c'est toujours d'être apte, c'est ça?
Non, ça, c'est pour c'est tous les soins. Si vous êtes apte, ben, vous décidez que oui ou non, vous voulez avoir
Les DMA, donc, c'est si jamais on n'est plus conscient du tout,
Exactement. Ils
se basent là-dessus.
Exactement. Par contre, et c'est là où on en vient ces jours-ci, là, c'est que dans les directives médicales, on ne peut demander l'aide médicale à mourir auparavant. Donc, c'est là où on en est.
Donc, les DMA n'incluent pas l'aide médicale à mourir.
Exactement. Par contre, ça inclut tout le reste. Allez-vous être intubé, allez-vous avoir un massage cardiaque, etc., etc., etc.
Oh mon Dieu, c'est pas drôle de penser à ça pareil.
Mais
on n'a pas le choix. Je sais, on n'a pas le choix. Ben oui, c'est la vie, vous avez raison. Maître Lambert?
D'abord, vous me permettez de dire que je ne parle pas au nom de la commission. Ça, je pense que c'est bien important, même si j'en suis membre, mais je m'utiliserai certains renseignements que je possède, dont celui-ci, qui est assez dramatique dans un certain sens. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui ont fait leur DMA, mais savez-vous où est le problème? Il y en a un deuxième, et je vous donne deux chiffres. Les consultations entre décembre 2015 et le 31 mars 2018, le Centre hospitalier de Montréal, le CHUM, a consulté 7 fois le registre de la RAMQ. Le Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke, 2361 fois. Alors, quand on parle de disparité, à Montréal, ça ne marche pas. On regarde les chiffres là, par rapport aux régions. Alors, c'est bien beau de dire aux gens des faire, mais il faut aussi que le corps médical
suive,
se mette à jour et consulte le registre. C'est très important.
Mais on s'en parlait l'autre jour, docteur L'Espérance, quand je vous disais, je vous rappelais des chiffres qui étaient sortis, entre autres, dans les médias, l'effet que pour l'aide médicale à mourir, il semble y avoir un problème montréalais. Puis là, ce que vous dites, Jean-Lambert, comme notaire, c'est qu'il y a visiblement, là aussi, dans la consultation des DMA, des directives médicales anticipées, là aussi, il y a un problème montréalais. C'est comme si ça marche pas, mais l'aide médicale à mourir, c'est pareil. À Québec, ça marche, les gens peuvent y avoir accès, c'est pas trop long. À Montréal, ça dépend sur qui tu tombes comme médecin, puis les médecins, ils sont peu nombreux à vouloir être ouverts à ça.
Juste une petite précision là-dessus, ça dépend vraiment des zones. Par exemple, le CHUM et le CUSUM, on sait qu'il y a des problèmes encore plus au CUSUM qu'au CHUM. Par contre, dans l'est de l'île, Maisonneuve-Rosemont et tout le CIUSS, ça marche numéro un.
Mais ça peut pas être au goût, là. Non, ça peut pas être selon l'hôpital.
Vous avez 100% raison. Mais je sais qu'au CHUM, les médecins qui sont là ont recruté d'autres personnes et ils sont très dévoués. Au CUSUM, c'est vraiment une autre problématique.
Mais
dans l'est de Montréal, par exemple, je le répète, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et tout le CIUSS fonctionnent très, très, très bien. Alors, c'est vraiment idéologique, disons le terme. Voilà.
Imaginez tantôt quand on va vouloir utiliser les DMA pour un consentement, une demande anticipée. Hein? C'est ça qui est dans l'air du temps, c'est bon aussi. Alors, il faut que tout le monde aussi se mette au diapason.
Un dernier petit point.
Puis il faut le dire aussi, parce que ça veut dire que si les hôpitaux ou les médecins ne les consultent pas, ces fameuses directives anticipées, il faut que la famille soit au courant pour leur dire « Allez voir dans le dossier. »
Exactement.
Elle a
tout
dit qu'elle ne voulait pas d'acharnement. C'est
tout
ça.
À fait. Dans toutes les conférences qu'on donne, nous, le message qu'on dit, faites vos directives médicales anticipées, faites-en 5 copies, donnez-en à des gens autour de vous, plus jeunes que vous, autant que possible, donnez-en à votre médecin. Et puis, faites-le savoir. Mais vous avez parfaitement raison, M. Lambert, tout à fait raison de souligner ça. C'est vrai que les médecins, pour des raisons que j'ignore, vont pas souvent les consulter. Mais c'est un...
Ils n'ont peut-être pas le temps aussi,
ils vont sur les ordinateurs pas mal. Mais qu'est-ce qui empêcherait une personne arrive inconsciente, Mme X arrive à l'hôpital, pourquoi est-ce que l'infirmière au triage ne regarde pas tout simplement s'il y a des directives médicales anticipées pour cette personne-là? Ce sont des choses administratives extrêmement
simples. Mais est-ce que c'est dans notre dossier, quand l'hôpital, par exemple, pour un médecin ouvre notre dossier là, de patient, dossier informatisé, s'entend, là, considérant qu'il fonctionne pour tout le monde. Donc ça, c'est en théorie, parce qu'en pratique, on sait que c'est autre chose, malgré les milliards qu'on y a mis. Est-ce que ça pourrait pas être automatique, qui est comme quelque chose, un astérix qui dit « Attention, ce patient a fait des DMA », plutôt que d'avoir tout le temps l'autre... Ça prend un autre geste pour aller. C'est comme une autre intervention. Il faut aller sur un autre geste, la RAMQ. C'est long faire ça. Ça devrait être dans notre dossier patient.
D'accord avec vous.
Actuellement, si la
personne... Pas compliqué penser à ça, là. Je viens juste d'y penser, là. Je suis sûr qu'ils ont dû penser à ça, eux autres, là. Ils sont payés pour, d'abord.
Non, mais ministère, ils sont payés.
Si les gens... Je sais pas, là, mais tu sais, ils pourraient nous appeler ce matin, là.
Ouais, les gens qui font des DMA et qui en donnent une copie à leur médecin, lui, il doit le verser au dossier. Donc, on devrait le trouver.
Ouais.
Par ailleurs, le médecin qui s'aperçoit que son patient commence à en perdre au niveau de la capacité doit vérifier s'il existe des DMA au registre. Et là, s'il y en a, il les verse au dossier. Donc, et oui, le dossier devrait le contenir.
Mmh. Il y a
et
bien
je
des
dis aux
devrais,
gens, quand vous faites
même,
des DMA, parlez-en à votre médecin, puis donnez-lui une copie qui verse à votre dossier.
Ouais.
Et quand on aura un dossier qui va fonctionner, on voit quand même qu'on fait du progrès. Faut quand
vous
même
savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin. Puis vous savez aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont un médecin de famille, mais ça ne change pas grand-chose à leur vie, étant donné qu'ils ne sont pas capables de le joindre.
Ouais, mais pour les DMA, vous n'avez pas besoin d'avoir votre médecin.
Ça peut être n'importe quel médecin qui le met à notre dossier?
En fait, oui, mais c'est surtout le fait d'en avoir, de l'avoir écrit chez vous, de l'avoir envoyé à la RAMQ et aussi d'avoir une copie chez vous sur un mur par des personnes âgées, par exemple, ou de le donner à vos enfants, neveux, nièces, enfin une personne de confiance, si possible. Plus jeune. Mais je sais qu'au ministère, et malheureusement, son nom m'échappe complètement, c'est pas gentil, il y a une dame qui est spécifiquement maintenant en charge de ce dossier-là depuis le mois de novembre à peu près. Mm. Donc, qu'est-ce qui va arriver après, j'en sais rien, mais bon, c'est quelque chose qui est vraiment au courant.
Donc là, on vient de parler du nouveau régime de DMA, des directives médicales anticipées, donc qui vous permet à vous, si vous avez 18 ans et plus, d'enregistrer dans un formulaire préétabli ou devant votre notaire encore, votre volonté d'accepter ou de refuser certains soins si vous atteignez cet âge ou vous serez cet âge ou à la suite d'un accident, d'un événement malheureux qui fait que vous n'êtes plus apte à consentir à ces soins-là, ben c'est DMA. En fait, à force d'en parler, je me dis, mon Dieu, on devrait vraiment tous avoir ça. Là.
Absolument.
Parce que ça dit, la journée où tu n'es plus apte, ben tu as tes directives médicales. Donc, on ne fait pas d'acharnement thérapeutique, on ne fait pas ce que vous n'auriez pas voulu qu'on vous fasse si vous étiez apte à en juger. Donc ça, c'est vraiment les DMA. Mais je disais aussi qu'il y avait d'autres formulaires. Il y a le mandat de protection. Si vous voulez bien, on va revenir avec notre notaire Jean Lambert là-dessus. Mais aussi vos questions, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à tout ça. Il y a le sondage aussi qui sort ce matin. Est-ce que si vous aviez l'Alzheimer, est-ce que vous voudriez vous bénéficier de l'aide médicale à mourir? Auquel cas, comment vous pensez que ça se fait? 514-790-9850. Sans frais, vous téléphonez au 1-866-790-9850 et vous pourrez nous poser toutes les questions tout de suite après ceci. On parle ce matin, en fait, des dispositions pour éviter, entre autres, l'acharnement thérapeutique. Vous savez que ça se fait quand même beaucoup. Dans certains endroits, on a compris, avec les explications de mes invités, le docteur Georges L'Espérance, qui est neurochirurgien, président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Également avec nous, le notaire Jean Lambert, qui est ex-président de la Chambre des notaires et qui pratique depuis presque 50 ans. Ça vous rajeunit pas, ça?
Le 50 ans est fait.
Le 50 ans est fait. Au moins, vous êtes un spécialiste, membre de la commission sur les soins de vie.
De fin de vie.
Et oui, ben la fin de vie fait partie de la vie. Mais bon, effectivement, soins de fin de vie. Parce qu'il y a l'acharnement thérapeutique, mais il y a tout le reste aussi auquel on ne penserait pas. Comme quoi, par exemple? Il y a l'acharnement, mais il y a
on dit acharnement, mais c'est pas forcément de l'acharnement. Il y a aussi tous les soins que vous voulez ou pas avoir. Si vous arrivez comateuse à l'hôpital et qu'il n'y a personne avec vous, c'est sûr que vous allez être intubé, c'est sûr que vous allez avoir des tubes qui vont vous être mis un petit peu partout. Si vous avez fait vos directives médicales anticipées, que vous ne voulez pas ça, vous les aurez pas, c'est tout. Un autre exemple plus facile à comprendre, souvent, vous êtes en dialyse rénale depuis 10 ans. Et bon, vous avez votre dialyse 2 à 3 fois par semaine.
Ouais.
Et à un moment donné, vous décidez que vous en avez assez. C'est sûr que vous allez devenir inconscient et vous allez rentrer à l'hôpital inconscient. Mais ça, c'est pas de l'acharnement thérapeutique. Vous ne voulez plus de dialyse. Donc, c'est un arrêt de traitement, si la mort s'ensuit.
Ouais.
Donc, c'est tout ça. C'est toute le vaste spectre des traitements, pas forcément l'acharnement.
Est-ce qu'il y a des gens, docteur Lespence, qui refusent de se faire intuber, justement, parce que...
Dans les directives médicales, oui, mais lorsque ça vient le temps de se faire intuber, normalement, tu n'es pas apte à donner ton consentement. Parce que s'il y a une raison pour t'intuber, donc tu es comateux ou autre. Mais donc, par contre, si vous n'avez personne avec vous, si vous n'avez pas de directive médicale anticipée, c'est sûr que vous allez vous faire intuber, que vous allez avoir des traitements de toutes sortes. Ben, c'est normal, un petit peu. Les médecins sont là pour... sauver la vie, entre guillemets. Et après ça, bon, on regarde
mais
la
on
question.
Mais on ne veut pas ça, se faire intuber en théorie. Là.
Ben, écoutez, ça se fait tous les jours, tout le temps, partout. Si vous vous faites opérer, vous allez être intubé, puis heureusement.
Oui, non, c'est sûr. Jean Lambert, expliquez-nous un peu, là, et parce que je disais tout à l'heure, il y a 3 documents qui créent un peu de confusion. On vient de parler des directives médicales anticipées. Ça, c'est un document qu'on doit signer qui est à part. Mais il y a toute la question du mandat, qu'on appelait avant mandat d'inaptitude, mais qui s'appelle justement le mandat de protection.
C'est un meilleur français.
ce mandat-là, ça, c'est un document qui est assez, le formulaire est assez quelques pages quand même. Ça nous protège de quoi en fait?
En fait, le mandat vous donne l'autorité de dire qui va s'occuper de la gestion de vos biens lorsque vous devenez inapte et également de votre bien-être, vos soins. Ça peut être la même personne, ça peut être 2 personnes différentes. Par exemple, une personne de votre famille qui est plus sensible à votre condition. Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut à l'hôpital ou l'endroit où on vous traite, alors que l'autre personne qui gère vos biens va vous faire une rentabilité extraordinaire, mais si vous n'avez pas de papier mouchoir, lui, ça échauffe peu.
Fait que ça peut être
donc,
2 personnes?
C'est pour ça que lorsqu'on reçoit les gens en entrevue, on pose les questions sur les personnes qui choisissent. Donc, le mandat, c'est ça. Et ça comprend tout un volet sur les soins. Et généralement, les gens ne veulent pas d'acharnement thérapeutique, ne veulent pas d'acharnement diagnostique, etc. Pourquoi qu'on a des DMA? C'est que la commission Mourir dans dignité, lorsqu'elle s'est promenée à travers le Québec, ça c'est avant qu'on ait le projet de loi 52, devenu le 2, elle s'est fait dire que les médecins ne respectaient pas ça. Et les médecins eux-mêmes sont venus en commission et me disent « Savez-vous, nous autres, on ne s'occupe pas de ça ».
Et pourquoi? Ah,
alors que le Code civil est très clair, l'article 11 dit que les gens ont le droit de refuser des soins, même si ça entraîne la mort.
Mais pourquoi les médecins? Peut-être.
C'est la culture. La réponse très courte, c'est qu'il y a la culture, mais c'est aussi que le mandat d'inaptitude, de protection. Le patient ne l'amène pas avec lui, pas plus que sa famille, la plupart du temps. C'est souvent chez le notaire ou ailleurs. D'autre part, les médecins ont peur des poursuites, donc ils agissent puis ils posent des questions après.
En tout cas, moi, ce qu'ils nous ont dit, ils ont dit nous, on règle ça avec la famille. On va en arrière de la porte et on a dit « Qu'est-ce qu'on fait? » Alors, pour un juriste, c'était assez un petit peu choquant, vu que, parce que lorsqu'on a fait le nouveau Code civil, qui est entré en vigueur en 1994, en janvier, c'était du droit nouveau, ça. Les droits de chaque individu sur sa personne. Autant au niveau des soins, sa réputation, etc. Ça, c'est tout un corpus qui va ensemble. Alors, dans le mandat, donc, les gens spécifient généralement, donc, d'une façon beaucoup plus large que les DMA. Les DMA, c'est très restreint, hein? C'est 3 situations de fin de vie avec 5 soins bien précis. Hein? Alors, on sait, là, c'est la réanimation cardio-respiratoire, l'utilisation d'un respirateur là, pour la ventilation assistée, la dialyse, alimentation forcée ou artificielle et l'hydratation forcée ou artificielle. Donc, ce sont les 5 soins sur lesquels les gens se prononcent « j'accepte ou je refuse ». Alors, et même si c'est aussi restreint, parce que plusieurs ont déploré que ça soit si restreint, puis je pense que ça va faire d'ailleurs l'objet d'une révision, mais c'est qu'au départ, la commission a dit, il ne faut pas trop en mettre. Par exemple, je pense à ce que l'hôpital général juif a pondu, mais c'est un des documents d'une complexité, d'une longueur, et la commission a dit, il ne faut pas non plus placer le personnel médical à être obligé d'avoir un spécialiste en interprétation chaque fois qu'ils ont une situation pour savoir qu'est-ce que les gens ont voulu dire dans leur document, surtout si ce sont des documents qui sont faits sans avoir les conseils et l'information nécessaire. Ça, c'est probablement la faiblesse qu'on a actuellement avec nos DMA. Les gens font venir le formulaire de l'ARMQ parce qu'ils peuvent le demander par téléphone ou en allant sur le site et c'est pas certain qu'ils ont de l'information.
Est-ce qu'on pourrait penser que dans les directives médicales anticipées, Maître Lambert, qu'on rajoute, en plus de ces trois situations de fin de vie puis des cinq soins précis que vous venez de nous expliquer, qu'on rajoute justement démence suite à l'Alzheimer ou d'autres maladies du genre? Parce que c'est un peu ce que les Québécois souhaitent là, ce matin avec le sondage. On apprend qu'il y en a quand même... Ça, c'est, on le sait tous, mais là, ça vient de confirmer. Il y en a 2 sur 3 à qui on a posé la question qui le disent. Moi, si j'ai l'Alzheimer, là, c'est comme je veux mourir.
Oui. C'est un peu ça, là, ça donne lieu à beaucoup de discussions. Ce que je vous dis, je pense qu'il est préférable pour ce qu'on appelle la demande anticipée d'aide médicale à mourir, je pense que ça doit être dans un document distinct. On comprend pourquoi, là. Oui. Il n'y a plus de revenez-y là, une fois qu'on est allé au bout. Donc, ça veut dire qu'il y a faut faire de l'attention. Plus, je comprends, mais mettons qu'on peut imaginer qu'il y a des précautions à prendre et de l'information qu'il faut absolument qu'il soit donnée avant que ça soit signé.
Et justement, Anne-Marie nous appelle. Elle a une question. Bonjour, Anne-Marie.
Oui, bonjour.
Est-ce que c'est en lien? Oui, allez-y, bon, vous écoute.
Oui. en fait, ma mère a signé tout ce qu'il faut, le DMA, le mandat d'inaptitude. Elle nous a répété clairement ad nauseam qu'elle ne veut aucun acharnement thérapeutique. Sauf que mon conjoint est premier répondant et ce qu'il m'a dit, c'est que même si il lui arrive quelque chose, elle a les papiers avec elle. Les papiers sont affichés sur un mur quand les premiers répondants arrivent. Et par exemple, si moi, je suis à côté d'elle et je pleure, ils disent non, faites tout, vous devez sauver ma mère. Mais peu importe les papiers qu'elle a signés, puisque je suis sa fille, mon opinion ou mon désir de la sauver va avoir préséance sur les documents qu'elle a signés. Et j'étais juste curieuse de savoir est-ce que c'est vrai.
Ça, c'est l'hôpital qui vous a dit ça? C'est le médecin?
Non, c'est mon conjoint qui est premier répondant. Il est pompier, puis il dit, même si les papiers sont là, on va... Puis l'enfant de la personne est là, puis il dit, non, vous faites tout ce que vous pouvez sauver ma mère mais ou mon père, ou peu importe, mais que les papiers sont là, il dit, on va s'acharner parce que la personne qui est légalement liée à la personne en détresse va le demander. Et je trouve ça un peu... difficile, parce que je me dis, alors, les papiers qu'on signe,
ils servent à quoi, c'est ça?
Ben, c'est ça.
Fait qu'il y a la théorie, les papiers qu'on signe, puis la réalité terrain. Maître Jean Lambert, là-dessus?
Ben, c'est justement, les DMA, dans la loi 2, ont voulu régler ce problème-là, parce que la loi dit c'est contraignant.
Donc, t'es obligé,
là. Il n'y a même pas le mandataire dans l'hypothèse où il y a un mandat de protection en vigueur ou un curateur qui aurait été nommé suite à une assemblée de conseil de famille ne peuvent pas s'opposer. Alors, imaginez encore moins un autre membre de la famille. C'est clair, la loi dit, si la personne a rédigé et signé des DMA conformément à la loi, elles sont contraignantes.
Sauf qu'Anne-Marie, elle nous l'a bien posé. Si elle est là, qu'elle pleure, qu'elle dit « Non, s'il vous plaît, faites tout ce que... »
Alors, son conjoint, ce qu'il va faire, il va s'adresser au tribunal pour forcer l'exécution, que les DMA soient respectés.
Oui, mais si tous les enfants pleurent puis ne veulent pas que la personne soit...
C'est
délicat.
C'est la personne qui compte d'abord et avant tout. Donc, si la personne a signé ses directives médicales, c'est ça qui a force de loi. Maintenant, écoutez, il y a un problème.
Mais dans les faits...
Bien, dans les faits aussi, il y a un problème de communication. Le médecin va aller en arrière dans une salle, comme disait Maître Lambert. On va prendre la famille, on va aller avec une ou deux personnes et puis on va discuter, expliquer la situation. Mais légalement, en justice, il n'y a pas un juge qui va pouvoir aller contre ça parce que c'est écrit dans la loi. Voilà. Les DMA ont un effet contraignant sur le personnel médical.
Elles ont force de loi, en fait.
Si vous me permettez une suggestion.
Contrairement au mandat de protection.
Je dis aux gens, lorsqu'ils ont fait des DMA, voulez-vous en informer votre famille? Exact. Voulez-vous leur dire que c'est ça? Que
faites le débat avant, si vous n'êtes pas d'accord, plutôt que
faites
quand je serai...
Faites pas ça en cachette.
Ouais.
Exact.
Ouais.
Tout à fait.
Oui, mais l'humain change. Anne-Marie, c'est un bon point là, que vous amenez...
Oui, mais si Anne-Marie sait très bien que c'est ce que sa mère voulait, c'est difficile de dire qui est-elle pour s'opposer à la volonté de sa mère.
Exact.
une fille qui ne veut pas laisser sa mère aller.
Oui, mais là, ça devient un problème à elle et non pas le problème de sa mère.
Mais le problème est toujours pour ceux qui restent.
Ben oui, mais alors qu'est-ce qu'on choisit? Notre droit dit que c'est la personne qui est autonome et qui décide ce qu'elle veut pour son bien-être.
Hey, je dis pas que je ferais ça, là. Je dis que je comprends qu'il y a des gens qui puissent avoir de la difficulté à laisser aller, puis à laisser aller l'être cher. Je veux dire, qui on est pour juger de comment on va réagir quand ça va nous arriver? Là?
Ouais. Mais cette question...
C'est délicat, ces histoires-là. Puis même par rapport à nous, il y a sans doute des gens qui ont aujourd'hui écrit des DMA, puis que la journée où ça arrive... Là, es-tu toujours d'accord avec ce que tu as décidé il y a 5 ans?
Ça,
c'est l'autre affaire aussi.
Ça, c'est un autre débat. Nous, on a dit qu'il faudrait aux 5 ans que ça soit révisé obligatoirement pour que la personne redonne un nouveau compte. Mais ça, c'est un autre débat.
Tu sais, les changements de situation familiale et tout ça. Il faut qu'on aille à la pause. Mais en tout cas, c'est toutes des bonnes questions. On va revenir avec vos réponses. On en discute. Les commentaires de nos auditeurs et auditrices. Merci Anne-Marie. C'est un très, très, très bon point parce qu'elle nous parle de la perception aussi. Puis de la part de son conjoint qui est premier répondant, ça veut dire que sur le terrain, les gens qui réaniment, les gens qui soignent, les gens qui interviennent, pour eux non plus, c'est pas clair tout ça. Donc, on est là ce matin pour essayer de faire avancer un petit peu les choses. Ben oui, il y a ça sans doute. 514-790-9850, 1-866-790-9850. À tout de suite. On a Robert qui est avec nous. Bonjour, Robert. Je pense que vous avez rempli tous les papiers, documents que vous pensez être nécessaires. Racontez-nous un peu ce matin. Bonjour.
Bonjour. Oui, on a rempli les DMA, puis on a reçu les certificats comme quoi c'est enregistré.
D'accord.
Mon épouse est à la maison, soins palliatifs. Et puis là, on a rencontré le médecin des soins palliatifs. Puis un petit peu avant, bien, c'est sûr, on avait rencontré l'oncologue, puis ainsi de suite. C'est un cancer du cerveau qui a déjà été opéré, puis qui revient. Mm. Mais ce coup-là, il revient, puis il attaque ses yeux. Là, présentement, elle a perdu un œil. Et puis, l'autre œil est attaqué légèrement pour le moment.
Et ces directives médicales anticipées sont de quel ordre?
Elle veut pas être intubée, elle veut rien, elle veut pas être nourrie, pas de réanimation. Ma question est la suivante.
Oui.
Parce qu'il y a eu 2 médecins, puis ça tombe bien, vous avez un neurologue, là, présent. Dans le cas de quelqu'un qui demande l'aide à mourir parce qu'elle a un cancer du cerveau puis elle devient aveugle, il y a un médecin qui nous a dit non. L'autre nous a dit oui.
Oh!
La réponse très courte, c'est avec ce que vous me dites. Évidemment, je ne connais pas le dossier de votre conjointe, mais un glioblastome, un cancer du cerveau, a une espérance de vie qui est très courte. Et vous êtes certainement, votre épouse, si actuellement elle est apte, et certainement rentre tout à fait dans les critères. Votre deuxième médecin avait tout à fait raison. Elle rentre dans les critères, c'est certain. Maintenant,
sur l'aide médicale
à mourir. En autant qu'elle est actuellement apte,
elle est apte, Robert?
Oui, je suis supposé de signer des documents là, la semaine prochaine avec le médecin.
Non, si c'est votre choix, elle et à vous, n'hésitez pas à redemander l'aide médicale à mourir. Je suis certain
qu'elle rentre. Ça prendrait combien de temps, docteur, pour qu'il ait pu l'avoir?
Normalement, ça doit se faire dans les 24-48 heures, la demande, enfin, la réception de la demande. Et puis là, tout dépend si la personne, le médecin, accepte le délai de 10 jours ou pas du gouvernement fédéral.
Mais entre le moment où on décide, qu'on signe le papier, la demande d'aide médicale à mourir, et le moment on a les injections...
Si le patient reste apte et qu'il n'y a pas de délirium en vue, le minimum, c'est 10 jours, mais la personne peut très bien décider que ça va être le mois prochain.
Fait que c'est rapide.
Sauf qu'avec une pathologie de ce type-là, la personne peut devenir inapte et là, elle va sortir des critères. C'est là qu'il y a la première.
C'est ça qu'il n'y a pas de bon sens. C'est ça qu'il n'y a pas d'allure.
La loi fédérale prévoit quand même l'exception. Si on anticipe que la personne risque de perdre sa capacité, et nous, à la commission, dans les études qu'on voit, il y en a beaucoup qui sont à l'intérieur du 10 jours et les médecins donnent la raison. Alors, ça peut se faire assez rapidement.
Raison est très simple. Hein, c'est soit justement une pathologie cérébrale ou encore le patient est très souffrant puis il ne veut pas prendre ses médicaments pour rester apte, ce qui n'a aucun sens médicalement. Là.
Et Robert, vous en avez parlé que votre conjointe, elle est décidée?
Ah oui, elle est très décidée. C'est sûr, si elle perd la vue, là, elle veut avoir... elle va avoir l'aide médicale à mourir. Ma dernière question à cet effet-là, est-ce qu'elle peut recevoir l'aide médicale à mourir à la maison ou
oui.
s'il faut absolument...
Oui, oui. Avec l'aide du CLSC ou les gens qui s'occupent de votre épouse dans les soins palliatifs autour de vous. Et en fait, c'est ce qu'on vise, c'est que de plus en plus de gens aident l'aide médicale à mourir à domicile.
Ben oui, rendu là, le porteur ramassé dans un corridor d'hôpital. Merci Robert, bonne chance et salutations à votre épouse.
Merci beaucoup. Au
Merci
revoir.
À vous. Extrêmement touchant cette histoire-là. Je trouve que ça. Eddie, bonjour.
Bonjour. Une information. Si je complète ce formulaire-là, là, j'ai 50, 55 ans, et on s'aperçoit que dans un an, deux ans, cinq ans, la recherche, la technologie avance et on trouve une solution à un problème. Et mais moi, malheureusement, je tombe dans un coma, peu importe, par rapport à cette maladie-là, que je connais pas d'avance la recherche et ainsi de suite. Qu'arrive-t-il, sais-tu, quand même, s'il y a une solution à cette maladie-là, et j'étais pas au courant, c'est quoi la décision?
Bon, alors, c'est certain que lors de la révision de la loi,
ouais.
à la révision de la loi, on va espérer peut-être qu'il y ait une espèce de clause crépusculaire, justement pour amener les gens à s'informer à nouveau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je peux très bien dire que je veux pas de dialyse. Parce que ce traitement m'incommode. Mais peut-être que dans 3 ou 4 ans ou 5 ans, la science aura avancé et là, ce traitement-là, je l'accepterai. Bon, alors la loi dit quand même quelque chose. Elle dit ceci, lorsque le médecin s'aperçoit que son patient est sur le point de perdre ses capacités, il vérifie à nouveau avec son formulaire si cette personne-là est toujours maintient toujours les mêmes refus. On va parler ici sur tout ça, là. Les mêmes refus. Et souvent, le médecin va lui dire, « Savez-vous, pourquoi vous avez refusé tel traitement? » Bien, à cause que, puis ma mère, puis bon, ma tante, puis c'est épouvantable. Oui, mais savez-vous que le traitement, maintenant, aujourd'hui, a été largement modifié? Il n'a plus les mêmes effets secondaires. Donc, c'est pour ça que c'est crucial, la relation du médecin avec son patient concernant les DMA.
Dernier point, si vous permettez aussi, c'est parfaitement vrai, je suis 100% d'accord avec ça, mais la médecine ne change pas par un miracle là, à tous les 6 mois. Là, ça, il faut quand même bien préciser ça. Là.
Non, les mais 5 ans, ça peut être...
Exactement, c'est pour ça que, comme on doit réviser son testament, d'ailleurs, on devrait réviser ses DMA à tous les 4-5 ans en fonction de l'évolution. Mais des miracles.
Mais ce que je comprends, je suis restée bouche bée là-dessus parce que je vous écoute, Jean Lambert, puis ça fait plusieurs fois que vous dites qu'il faut vraiment avoir une conversation avec son médecin, il faut vraiment. Je pense que tout le monde veut, là, mais c'est pas évident. Il y a beaucoup de si, puis de. On est au Québec, on a de la misère quand on est malade, on nous envoie à l'urgence.
Ouais, mais beaucoup de gens vont vous
on
dire.
On t'avait d'avoir une discussion
système,
avec la madame au triage, là, si ça continue.
Non, mais généralement, les gens qui sont rendus à l'étape où monsieur nous donne comme exemple, les relations avec le personnel soignant et les médecins, ça fonctionne bien. Là.
N'oubliez pas qu'on entend parler assez souvent des histoires d'horreur, mais jamais des histoires où. Moi, je connais des tonnes de médecins de famille qui vont prendre une demi-heure, 3 quarts d'heure avec leurs patients. Parce que c'est pas tous les patients qui arrivent avec une problématique grave, là. Donc, ils prennent du temps pour d'autres patients. Il y a quand même beaucoup de médecins qui font un très bon travail. Je ne veux pas tout voir en bleu, là, mais ce dont on entend parler, c'est les histoires d'horreur.
On va s'arrêter ici, très courte pause, et on revient tout de suite après. Merci, Eddie. On a une infirmière qui nous appelle, Isabelle, qui justement, vous avez des choses à nous dire sur la réanimation, Isabelle, comme infirmière. Bonjour.
Oui, exemple, en réa de trauma, lorsqu'on reçoit un client polytraumatisé, exemple accidenté de la route,
oui.
Il m'est déjà arrivé, il s'était tatoué sur le chest, ne pas réanimer.
Oh mon
Mais
Dieu!
Mais désolé, on réanime d'emblée. C'est-tu une erreur de jeunesse? Quand est-ce qu'il a fait ce tatou-là? Il était en cure de désintox? Il était en dépression?
Oui.
On ne sait pas. On réanime.
Avez-vous, mais sauf que s'il y a un tatouage comme ça, est-ce que vous vérifiez voir s'il y avait un DDMA ou un...
Non. T'as pas le temps. Il arrive, mettons, il est en trauma pour réanimer. On réanime. Là.
On ne check pas les papiers. Je comprends. Ouais.
C'est ça. Autre, souvent aussi, qu'est-ce qui arrive sur l'étage? Ouais. On fait notre tournée, on trouve notre patient inconscient. Puis, exemple, on... À 70 patients, là, on ne connaît pas toutes, là, par cœur. On réanime d'emblée. Puis là, pendant la procédure, ça arrive très souvent, là, hop, 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 on a la prescription du médecin, il ne fallait pas réanimer, on arrête tout. Mais ça arrive des fois qu'on l'a réanimé, puis il ne fallait pas. Ça arrive.
Ouais.
C'est même très fréquent, parce que c'est ça. Sauf que là, j'ai une question. Ça arrive
on aura d'autres occasions de mourir, pas... remarquez.
Oui, ouais, c'est ça. Mais ça arrive souvent qu'on n'a pas la prescription. Si c'est le c'est pas écrit ouais. par le médecin, ne pas réanimer, ben nous, ouais. on réanime d'emblée. Même ouais. si la famille est dans la chambre, ils disent « Non, 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 elle ne voulait pas. » Mais moi, j'ai pas de preuve légale, je réanime.
Oui. Ouais. Mais vous êtes infirmière, là?
Oui.
Ouais. Parce que j'ai Yannick qui m'écrit, qui est un paramédic, et il dit si, comme paramédic, on arrive à la maison, la personne est en arrêt cardiaque, elle peut avoir tous les papiers qu'elle veut. Si son enfant ou l'enfant adulte ou quelqu'un dit je veux que vous fassiez tout, on se doit de faire les soins RCR et de réanimer. Fait que c'est la même logique pour vous à l'hôpital. Ouais.
Ouais. Ouais, non, les patients soins à domicile, par exemple, non, c'est pas la même logique. C'est parce qu'on doit avoir le papier officiel, là. Trouve-moi une prescription officielle, le document officiel, normalement, quand tout dans le monde est beau, on a à l'admission, on a la fameuse feuille « Voulez-vous être réanimé? » Le niveau de soin.
Ouais.
Mais on s'entend qu'aujourd'hui, cette feuille-là prend souvent le bord parce qu'on n'a pas le temps.
Ouais. Est-ce que vous l'avez? Vous l'avez parfois, quand même? Est-ce que vous remarquez que depuis 2015, depuis qu'on a donc cette loi 2 que les DMA, que vous envoyez plus des documents comme ça, même s'il y a peu de Québécois qui les ont signés?
Le document, dans tel nom, c'est juste administrativement parlant, l'infirmière doit avoir quel patient réanimé ou pas et où est la fameuse, où est le document légal. On est supposé avoir une copie légale dans le dossier.
Ouais, puis vous
mais
ouais.
on ne l'a pas tout le temps.
C'est ça. Merci beaucoup, Isabelle.
Elle a parfaitement raison. Donc, j'aurais aimé ça travailler avec elle parce qu'elle a l'air de savoir où
elle est. Oui, ça niaise pas les infirmières au Québec. Non, non, mais sérieux.
Tout à fait.
Non, ça nous donne l'occasion de les féliciter puis de redire une chance qu'elles sont là.
Exactement. En ce qui concerne le tatouage, je suis 100% d'accord avec elle. Ça peut être n'importe quoi.
C'est clair.
Bon.
C'est clair.
Par contre, pour les paramédics, ça, c'est un problème d'agencement des lois. Les paramédics ont des obligations qui ne sont pas encore ajustées avec les autres lois. Ça, c'est un problème. Même façon, même chose pour les gens qui vont voir des patients dans les CHSLD et dans certaines résidences.
C'est
pour
ça, ça semble effectivement.
Il y a un problème d'ajustement des lois. Là.
Il faut le faire. Est-ce qu'on va le faire?
Ben, j'espère bien.
Parce que Jean me dit la même chose. Il dit paramédic également. Là, il dit qu'il y a une bonne amie. Elle a, d'entrée de jeu, chez elle, c'est marqué ne pas réanimer.
Ouais.
Puis elle dit les ambulanciers vont quand même réanimer. Puis c'est à l'hôpital que les DMA vont s'appliquer. Elle dit mais c'est incorrect. Ça lui cause beaucoup d'angoisse et d'insécurité à cette personne parce qu'elle ne veut pas être prolongée de quelque manière que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne?
Ben, c'est un problème d'ajustement des lois. Je ne peux pas dire autre chose que c'est un peu cette niaiserie.
Ouais.
Écoutez, j'ai été témoin moi-même personnellement à 2h du matin d'un patient qui avait une tumeur cérébrale maligne qui est mort. Et la résidence a appelé les ambulanciers qui ont commencé à réanimer. On est loin, là. Donc, il y a un problème ici là, d'agencement.
OK. Valérie qui pose la question, est-ce que le mandat d'inaptitude, c'est une question pour vous, Jean Lambert, notaire, est-ce que c'est moins valide s'il n'est pas fait par un notaire?
Non. Si on prouve, il doit être signé devant deux témoins. Et évidemment, des témoins qui ne sont pas parents, qui n'ont aucun intérêt. À ce moment-là, non. Il s'agit quand même de le faire homologuer. C'est le problème un peu. C'est que le mandat ne prend pas effet la journée où vous devenez inapte, parce que là, il y a un processus pour s'assurer qu'effectivement, il y a bien une inaptitude telle que le législateur l'a prévu. Donc,
ça veut dire qu'il y a des gens qui vont décider si on est inapte ou pas.
Évaluation psychosociale, et puis bon, etc. Alors, c'est pour ça que les DMA...
Non, mais sérieux, c'est gratuit tout ça?
Ben non.
Mais qui paye?
Hein? Ben, la personne, son patrimoine.
Bon, ben là, ça devient compliqué, là. Ben, pas que c'est compliqué?
Pourquoi?
Non. Non.
Je sais pas, il me semble que ça devrait... Si un mandat d'inaptitude, c'est clair, le mandat de protection, appelons-le comme ça,
oui.
Vous parlez du mandat de protection.
Oui, c'est exactement
pourquoi
ça.
Après, il faut que ça soit c'est comme si on faisait une enquête sur le mandat de protection.
Bon. Je ne vais pas refaire le débat qu'on a fait dans
non, parce qu'il nous
à la
reste
fin
deux
des
minutes.
Années 80, où nous, on avait à la Chambre des notaires une position où ça rentrait en vigueur très rapidement avec un certificat médical. Le législateur n'a pas voulu. Il dit on touche aux droits civils de la personne parce qu'une fois que le mandat est homologué, vous ne pouvez même plus signer un chèque. Là. On se comprend. Donc, vu la gravité des conséquences, le législateur a voulu imposer un mécanisme qu'on appelle l'homologation.
Ouais. Une autre protection du mandat de protection, ouais. Pour s'assurer que c'est un bel et bien véritable, signé en toute connaissance de cause, c'est ça?
C'est ça, la véracité.
Mais j'espère que ce n'est pas trop long quand même. Là.
Ça dépend des districts judiciaires. Il y en a que ça va très vite en dedans des mois ou deux, puis il y en a d'autres à Montréal, c'est très long.
Ouais. On a une petite question de Claudia. Êtes-vous capable de me faire ça vite, Claudia? On termine.
Oui, certainement. Moi, je suis une maman de deux adolescentes, 15 et 17 ans, et je me demandais est-ce que à partir de 14 ans, on n'a plus d'affaires dans le dossier médical, donc est-ce que ce serait pertinent de discuter avec elles et de leur faire ça à leur âge?
Absolument. 14 ans, un mineur peut avoir des soins sans que les parents soient au courant, sauf s'il y a vraiment une question là, de vie ou de mort. Là, qui
mais est-ce qu'il faut qu'on fasse signer un mandat d'inaptitude qui nous donne la capacité de gérer la santé de nos enfants après 14 ans?
Non. On peut pas faire de DMA, puis on peut pas faire de mandat pour une personne de moins de 18 ans.
On peut juste.
Il y a des discussions à savoir à partir de 16 ans où le mineur mature. Mais là, on dit ça, c'est en plein. C'est
merci, Claudia. Il va falloir que vous reveniez tous les deux parce qu'on a encore plein de questions. Vous n'avez pas au moins une autre heure, mais ce sera pour une prochaine fois.
Remplissez vos DMA.
Oui, c'est ça. Allez voir ça. C'est gratuit sur le site de la RAMQ. Allez voir votre notaire. Faites le testament en même temps, le mandat de protection en même temps. Merci à tous les deux. Ça a été très intéressant d'entendre ces précisions.